Bonjour à toutes et à tous, Boker Tov. Le Premier ministre Netanyahou adresse un avertissement à la Turquie après les frappes de Tsahal en Syrie. Roman Goffman, le chef du Mossad, s'est lui entretenu avec le ministre syrien des Affaires étrangères. Et les États-Unis louent les renseignements israéliens en Syrie, mais critiquent les frappes israéliennes contre la base aérienne dans le pays.
Donald Trump annonce une guerre économique sans précédent contre l'Iran. Le président américain veut ainsi isoler Téhéran et se dit prêt à sanctionner tous ses alliés. Israël, dans ce contexte, met justement en lumière la Hawala, un système financier exploité par le Hamas et le régime iranien pour financer le terrorisme. Et enfin, la Belgique, la France et l'Allemagne condamnent des propos jugés inacceptables de la part du ministre israélien Itamar Ben-Gvir. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou adresse un avertissement à la Turquie après les frappes de Tsahal en Syrie.
Nous ne tolérerons pas la présence d'une armée turque en Syrie qui menace Israël. Notre message était pourtant clair. Ne le faites pas. Apparemment, il n'a pas été suffisamment clair. Alors nous avons veillé à ce qu'il soit bien compris, a déclaré le chef du gouvernement israélien dans un podcast enregistré hier. Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, en a rajouté une couche ce matin sur X. Recep Tayyip Erdogan entraîne la Turquie dans des aventures périlleuses en Syrie. Israël ne permettra à personne de menacer sa sécurité. Il serait préférable pour Erdogan de continuer à proférer des discours creux et fantaisistes contre Israël au Parlement turc plutôt que de mettre à l'épreuve la détermination d'Israël à se défendre.
Et toujours dans le contexte de ce dossier syro-israélien, le chef du Mossad, Roman Goffman, se serait entretenu avec le ministre syrien des Affaires étrangères la semaine dernière au sujet justement de la présence turque en Syrie.
L'appel se serait tenu le 14 août dernier, soit 4 jours avant la frappe. Il s'agit ni plus ni moins du plus haut niveau de contact jamais établi entre Israël et le nouveau gouvernement syrien depuis la chute de l'ancien dictateur Bachar el-Assad. C'était en décembre 2024. Les bureaux du Premier ministre à Jérusalem et les services de la diplomatie syrienne ont refusé de commenter cette information.
Et pourtant, les autorités syriennes confirment la présence de responsables turcs sur la base aérienne visée par Israël quelques heures avant les frappes.
Responsable syrien de confirmer ainsi les informations transmises par Israël au sujet d'une présence turque sur le site visé. Deux hauts fonctionnaires syriens ont indiqué que la délégation turque s'était rendue lundi sur la base aérienne située dans la province d'Idlib afin d'examiner les travaux de réhabilitation en cours sur le site. Les autorités turques n'ont pas encore commenté la présence signalée d'une délégation militaire de leur pays en Syrie.
Et le ministre syrien des Affaires étrangères se dit quant à lui prêt à discuter d'un accord sécuritaire avec Israël et ce, malgré les frappes contre son pays.
La nature des activités sur la base était connue et rien ne permettait d'interpréter les travaux de reconstruction comme l'établissement d'une base militaire turque en territoire syrien, a souligné le chef de la diplomatie syrienne, Assad al-Shabani. Le ministre syrien des Affaires étrangères a également indiqué avoir été en contact avec l'administration Trump avant et après l'attaque. L'objectif principal était de faire part de notre position et de nos préoccupations et d'agir pour prévenir toute escalade, a-t-il déclaré. Nous avons clairement fait savoir aux États-Unis que nous ne faisons pas confiance aux intentions d'Israël envers la Syrie et que selon nous, la politique israélienne actuelle, notamment l'escalade militaire et ses actions sur le terrain, ne contribuent ni à la stabilité de la Syrie, ni à celle de la région, a déclaré al-Shabani. Nous souhaitons un apaisement de la situation, car la poursuite des tensions militaires dans la région ne sert pas les intérêts d'aucune des deux parties et n'aide pas aussi à instaurer la stabilité dont la Syrie et toute la région ont besoin, a-t-il souligné. Il a déclaré que le gouvernement syrien souhaitait toujours conclure un accord de sécurité avec Israël, et ce afin de réduire les tensions à la frontière entre les deux pays. Mais la responsabilité de l'apaisement de la situation ne peut reposer sur une seule partie. Israël doit également réexaminer sa politique envers la Syrie et reconnaître que la poursuite des opérations et des attaques militaires n'apportera pas la sécurité à long terme, mais ne fera qu'accroître l'instabilité, a-t-il affirmé.
Et les États-Unis, quant à eux, sur ce dossier, justement, louent les renseignements obtenus par Israël sur l'implantation turque en Syrie.
Oui, selon la chaîne israélienne N12, l'administration Trump aurait loué la qualité des renseignements obtenus par Israël au sujet de l'implantation militaire turque en Syrie. Des renseignements qui auraient abouti à l'opération menée mardi matin contre la base aérienne d'Abu al-Dour dans le nord de la Syrie. Malgré les louanges adressées aux renseignements de l'État hébreu, le président Trump a fait part de ses réserves quant à l'efficacité des frappes menées par Israël sur le sol syrien. Le président aurait préféré qu'Israël règle ce problème par des voies diplomatiques et non militaires, affirme un proche de l'entourage du président américain, un haut responsable en poste à Washington appelle Israël à soutenir le mécanisme de déconfliction que les États-Unis souhaitent mettre en place entre Jérusalem, Damas et Ankara. Le chef d'état-major de Tzal, Eyal Zamir, était lui hier en visite dans la zone tampon syrienne pour bien marquer l'importance que ce sujet a aujourd'hui pour Israël.
Conflit entre les États-Unis et l'Iran à présent. Donald Trump, le président américain, annonce une offensive économique sans précédent contre l'Iran. Il veut imposer à Téhéran une véritable guerre économique et un isolement total.
Selon lui, l'Iran a laissé passer sa chance de conclure un accord avec Washington. Les nouvelles mesures américaines doivent désormais frapper toutes les activités permettant au régime de maintenir des liens avec l'étranger. Exportation clandestine de pétrole, transfert d'argent, société, écran, immatriculation de navires ou encore opération de change. Donald Trump menace également de lourdes sanctions les pays, les banques, les entreprises et même les aéroports qui continueraient à offrir une bouée de sauvetage, je cite, économique à Téhéran. Il appelle les alliés des États-Unis à participer à ce qu'il qualifie de D-Day économique. Le président américain assure par ailleurs que la marine et l'aviation iranienne ont été détruites, que les installations militaires du pays sont en ruine et que le régime se trouve au bord de l'effondrement. Des affirmations qui n'ont pas été confirmées indépendamment. Le président américain a conclu sur son réseau Truth Social: ces fous furieux sont acculés, ces mesures historiques les paralyseront et mettront fin à leur capacité à semer la terreur à travers le monde. L'Iran ne disposera jamais d'une arme nucléaire. Merci de l'attention que vous portez à cette question. Signé le président Donald J. Trump.
Et selon Bloomberg, plusieurs mesures sont actuellement étudiées par l'administration américaine pour couper Téhéran de ses principales sources de revenus.
La première cible serait la Chine, qui achète plus de 90% du pétrole exporté par l'Iran. Washington pourrait sanctionner les intermédiaires participant à ce commerce, une décision sensible à l'approche d'une rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping. Deuxième levier, les bureaux de change, notamment ceux installés aux Émirats Arabes Unis, qui permettent à l'Iran de récupérer des devises et de contourner les sanctions, même si leur fermeture pourrait simplement pousser Téhéran vers d'autres intermédiaires ou vers les crypto-monnaies. Washington a d'autres options sur la table: confisquer les avoirs iraniens placés sous juridiction américaine et élargir les sanctions contre la flotte fantôme utilisée pour exporter clandestinement le pétrole iranien. L'administration américaine envisage également des sanctions secondaires, notamment contre les voisins de l'Iran, mais aussi la Turquie. Reste à savoir si ces mesures seront véritablement efficaces contre la République islamique, car l'Iran dispose d'un vaste système financier informel depuis des années destiné à contourner les sanctions internationales.
Eh ben justement, on va en parler de ce système financier informel, puisqu'Israël met justement en lumière la Hawala, un système financier discret exploité par le Hamas et le régime iranien pour financer le terrorisme.
Un système clandestin dont le fonctionnement est simple. Une personne remet une somme à un intermédiaire dans un pays. Celui-ci contacte un correspondant à l'étranger qui verse l'équivalent au destinataire. Les deux intermédiaires règlent ensuite leur compte entre eux. Aucun virement bancaire direct ne relie donc celui qui envoie l'argent à celui qui le reçoit. Europol la cite comme parmi les méthodes utilisées pour déplacer ou dissimuler des fonds liés à des activités terroristes. En juin 2025, Tsahal estimait que le Hamas avait reçu à Gaza plusieurs centaines de millions de shekels grâce à ce système, notamment depuis l'Iran. Selon l'armée israélienne, ces transferts étaient organisés par des membres du Hamas installés en Turquie. Téhéran utiliserait parallèlement des bureaux de change, des sociétés écrans et des circuits de Hawala pour contourner les sanctions et accéder à des devises étrangères. Le principe est donc redoutablement efficace. L'argent ne voyage pas, mais sa valeur, elle, arrive bien à destination. Rencontre au sommet hier à Bagdad entre l'Iran et l'Irak. Le premier ministre irakien Ali Al-Zaidi a déclaré, s'adressant au président du Parlement iranien Mohammad Kalibaf: « Bienvenue dans votre pays et dans votre deuxième patrie. Nous considérons que l'Irak et l'Iran forment une seule et même nation répartie sur deux pays. »
Axios révèle que l'armée américaine contrôle depuis plusieurs semaines un couloir maritime dans le sud du détroit d'Ormuz.
Entre 15 et 20 pétroliers y circuleraient chaque nuit près des côtes d'Oman sous protection américaine. Ce dispositif permettrait d'acheminer environ 10 millions de barils de pétrole vers le marché mondial, soit la moitié du volume transporté avant la guerre. Les navires avanceraient en convoi protégés par l'aviation américaine contre les missiles et les drones.
En Israël, l'aéroport Ben Gurion est sous pression entre les fortes affluences en cette période estivale et les bombardiers américains.
Benjamin Netanyahou et la ministre des Transports Miri Regev se sont rendus hier à l'aéroport Ben Gurion pour évaluer son fonctionnement en pleine période de forte influence. Ils ont notamment visité la tour de contrôle et rencontré des employés ainsi que des passagers. L'aéroport connaît actuellement des journées particulièrement chargées. Vendredi dernier, près de 90 000 voyageurs étaient attendus et environ 90 vols se sont concentrés sur une période de 3 heures. Une situation qui a provoqué des tensions sur les stationnements, les équipes au sol et le traitement des bagages, entraînant plusieurs retard. À ce trafic estival s'ajoute la présence inhabituelle d'avions militaires américains, notamment les ravitailleurs qui occupent une partie des emplacements disponibles. Certains de ces appareils ont déjà été transférés vers des bases militaires israéliennes, ce afin de libérer de la place pour les vols civils. L'enjeu est désormais d'accompagner la reprise du trafic aérien après plusieurs années marquées par la guerre, les fermetures de l'espace aérien et les suspensions de compagnies étrangère. Miri Regev a salué le travail des milliers d'employés mobilisés pour maintenir les opérations et assurer le service aux voyageurs malgré les contraintes estivales et sécuritaires.
Miri Regev, bien sûr, la ministre israélienne des Transports. La force de stabilisation de la paix à Gaza va bénéficier d'un large budget accordé par l'administration Trump.
Plus de 206 millions de dollars, c'est la somme que les autorités américaines s'apprêtent à offrir à la force de maintien de la paix, selon une note publiée par les bureaux du département d'État. Ce budget servira à couvrir les frais d'équipement, d'infrastructures, de véhicules et de fonctionnement. 6 millions de dollars supplémentaires permettraient de réaffecter des véhicules blindés américains. Les forces de sécurité israéliennes dirigeront les opérations de défense, soutiendront la démilitarisation complète et permettront l'acheminement en toute sécurité de l'aide humanitaire et du matériel de reconstruction à Gaza, indique l'une des notifications, tout en précisant que la composition finale de la force internationale de la paix, multinationale de la paix, était en cours de négociation. L'administration américaine n'a pas précisé le montant final nécessaire pour financer cette force militaire.
Et en restant la bande de Gaza, Israël ne croit toujours pas au processus de désarmement du Hamas.
C'est ce qu'affirment plusieurs sources sécuritaires à la chaîne israélienne Kan. Sa'al continuera de contrer les menaces, ne se retirera pas de la ligne jaune et les opérations liées à la reconstruction de la bande de Gaza ne débuteront pas, a ajouté la même source. Selon certains hauts responsables de la défense israélienne, Tsahal a bien reçu le feu vert de l'administration américaine pour poursuivre ses opérations ciblées contre le Hamas et contre les terroristes de la division Nourba impliqués dans les massacres du 7 octobre. À Gaza, toujours, le Hamas tente de reconstruire sa force navale. Israël suit cette reconstruction afin d'empêcher l'organisation terroriste de retrouver ses capacités opérationnelles.
En Belgique, l'incendie dans les Fagnes est à présent encerclé, mais reste actif. De nombreux pompiers sont d'ailleurs toujours mobilisés.
Plusieurs hélicoptères ont encore été déployés pour aider à lutter contre les flammes. Les habitants des deux localités qui avaient été évacuées vont, quant à eux, pouvoir regagner leur domicile, ceux de Montjoly, ville allemande de la frontière aussi.
La Belgique, la France et l'Allemagne condamnent des propos jugés inacceptables de la part du ministre israélien Itamar Ben-Gvir.
En Belgique, c'est Maxime Prévost, le ministre des Affaires étrangères, qui s'est exprimé. Ce n'est pas un dérapage isolé. J'ai déjà condamné à plusieurs reprises ses déclarations et ses actes. C'est précisément pour cette raison que la Belgique a décidé de déclarer Itamar Ben-Gvir persona non grata sur son territoire depuis le 12 septembre 2025 déjà et de plaider pour une interdiction plus large au niveau européen, a rappelé le chef de la diplomatie belge. Les condamnations exprimées par plusieurs partenaires européens sont nécessaires, mais il faut désormais en tirer les conséquences. La Belgique a pris ses responsabilités au niveau national. L'Europe ne peut pas continuer à condamner de tels propos tout en maintenant une forme de normalité politique avec ceux qui les tiennent, a-t-il ajouté. À mes yeux, il devient impossible de justifier l'absence de mesures européennes à son encontre. Nos principes perdent toute crédibilité si des appels aussi explicites à la violence restent sans conséquence, a-t-il conclu.
Et de son côté, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a lié les récents événements observés dans le village palestinien de Kousra avec les récentes sanctions françaises prises contre Itamar Ben-Gvir, justement.
Ce qui se passe aujourd'hui en Cisjordanie, je cite, est absolument scandaleux et devrait tous nous remplir de répulsion. C'est pourquoi nous avons sanctionné le ministre israélien Ben-Gvir, dont les récents propos sont inacceptables et inhumains, ajoute Jean-Noël Barrot. Pour rappel, au mois de mai dernier, la France a prononcé une interdiction d'accès à son territoire au ministre israélien. La diplomatie française reproche à Itamar Ben-Gvir, entre autres, d'avoir affirmé dans un podcast enregistré récemment avec l'ex-otage du Hamas Ram Braslavski vouloir éliminer 30 30 à 40 Palestiniens par jour, alors qu'il déclarait vouloir éliminer 30 à 40 terroristes par jour dans la bande de Gaza.
Économie israélienne à présent, une start-up israélienne en passe d'être rachetée pour 6 milliards de dollars.
La société Anthropic, en charge notamment du site Claude IA, négocierait le rachat de la start-up israélienne Dicart pour une valorisation avoisinant les 6 milliards de dollars selon des informations de la chaîne économique Bloomberg. Dicart fait partie des entreprises israéliennes d'intelligence artificielle ayant connu une croissance particulièrement rapide ces dernières années, fondée en septembre 2023 par le docteur Dean Leitersdorf, aujourd'hui PDG, et Moshe Shalev, directeur du produit, deux anciens de l'unité 8200. La société emploie aujourd'hui une centaine de salariés. Elle développe des technologies destinées à améliorer significativement l'efficacité de l'entraînement et de l'exécution des modèles d'IA, ainsi que des modèles capables de générer du contenu visuel en temps réel. Pour le moment, aucun accord n'a été conclu entre les deux entreprises, si les discussions aboutissent, il s'agirait de la plus importante acquisition jamais réalisée par Anthropic, ainsi que l'un des plus grands rachats jamais enregistrés dans la high-tech israélienne.
On parle de sport à présent et de foot. L'Hapoël Beersheva prend une petite option sur la qualification pour la phase de poule de Ligue des Champions.
Oui, les champions d'Israël se sont imposés hier 2-1 face au Saba Bakou en barrage aller de la Ligue des Champions. Menés au score dès la 6e minute, les hommes de Ran Kozour ont renversé la situation grâce à des buts de Javon East à la 43e minute et d'Igor Zlatanovic à la 79e minute, et le score aurait pu être beaucoup plus lourd. Plus de 1000 supporters des Rouges du Negev ont fêté la victoire sur la pelouse de Bucarest en Roumanie, où l'équipe joue à domicile en raison, vous le savez, du contexte sécuritaire en Israël. Si la Hapoël Beersheva se qualifie pour la Ligue des Champions, il deviendra la 4e équipe israélienne à accéder à ce statut prestigieux après le Maccabi Haïfa, le Maccabi Tel Aviv et l'Hapoël Tel Aviv.
Et on termine ce journal sur une note positive, comme souvent. Un ex-otage du Hamas, Elia Cohen, s'est marié hier soir avec sa belle, qu'il aime depuis 10 ans et qui a tout fait pour le faire libérer, Ziv Aboud.
Près de 3 ans après s'être retrouvés ensemble dans l'abri du kibbutz Re'im lors de l'attaque du 7 octobre 2023, Elia Cohen et Ziv Aboud se sont dit oui hier soir, soit 1 an et demi après la libération de l'ancien otage du Hamas. Environ 1 millier d'invités ont répondu présents pour célébrer leur union. Leur ketouba, le contrat de mariage religieux juif, a été rédigé par Moshe Shapira, le père d'Aner Shapira, tué le 7 octobre après avoir repoussé à plusieurs reprises les grenades lancées par les terroristes du Hamas à l'intérieur de l'abri du kibbutz Re'im où se trouvait le couple. Son action avait permis de sauver plusieurs vies. Pour nous, c'est une manière de boucler la boucle qu'il est difficile de décrire avec des mots, confiait Elia Cohen et Ziv Aboud. Aner a fait partie du moment qui a changé nos vies et aujourd'hui son père sera celui qui écrira notre ketouba et prendra part au moment où nous choisissons la vie et l'amour. Cela nous émeut énormément et nous leur souhaitons un très très grand Mazal Tov.